Eh bien, le bonsoir.
Eh bien, le bonsoir.
Ouais.
Vous êtes dans l'apérophonie.
C'est ça. À la bonne franquette.
À la bonne franquette.
C'est l'heure de l'apéro et puis de la bonne bouffe. Et on a décidé avec Émilie et moi-même, Cyril de Rockologie, de faire un programme dédié au rock et puis à la nourriture au sens large, puisqu'on vous emmène directement aux États-Unis.
Exactement.
Avec un chasserie croisé entre quelques recettes. On va dire typique américaine et puis du rock pur jus. Il n'y aura pas de fioritures. On va tout droit dans les années 60 et 70 et découvrir les recettes de Madame Émilie.
Et oui, avec du lard au café, des oignons frits, mais aussi une apple pie, des cheesecakes, peut-être si on a le temps, la dinde de Thanksgiving et tout ce qui s'en suivra, comme des muffins salés et un bonus pour du cornbread. Vous êtes dans l'apérophonie, on est bien, et vous êtes sur Campus Grenoble 90.8.
Alors, débutons avec...
Avec The Meters, Running Fast.
Ah bah, c'était pas ça, parce qu'on on avait ça en fond sonore.
Et oui, c'est terrible.
Et c'est du direct, faut
et
le
oui.
dire.
Et c'est Judy Hensk.
Voilà, c'est ça.
Et Jerry Hester.
Oui, avec cette histoire de l'art, on s'est dit, tiens, pourquoi pas aller du côté de Los Angeles. Même s'il y a un petit peu un décalage, mais on s'en fout, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on met dans le lard au café, à part
bien,
du lard du café?
En fait, c'est rigolo parce que c'est une recette que j'ai pas trouvée sur Internet. C'est une recette que j'ai vue sur une série Netflix, donc je n'arrive pas à m'en retrouver le titre. J'ai recherché dans mon compte Netflix, je n'arrive pas à retrouver le titre. Mais en tout cas, c'était une série sur laquelle il y avait un cuisinier qui cuisinait énormément de maïs. Et un jour, il a changé, il a fait du lard au café. C'était une recette plébiscitée par donc, les rednecks, travailleurs des champs. Et du coup, on va faire cuire une tranche de lard dans une poêle qu'on va ensuite déglacer au café. Et c'est super bon. Ça tient au corps toute la journée.
Ah ça, j'en doute pas.
Et c'est génial pour les petits brunchs du dimanche matin.
D'accord. Le mélange sucré-salé, comme ça, ça va nous forcer à écouter. Forcer, même pas. Avec beaucoup de plaisir, on va retrouver Judy Hensk et Jerry Hester avec ce... titre à la fois folk et puis complètement bariolé.
stole a Morgan's fair as long as she was sly. She was sly.
Eh bien, vous êtes toujours dans la hyperophonie avec Émilie.
Et Cyril.
Oui.
Sur Campus Grenoble, et 90.8.
Et on continue justement dans notre road trip en matière de nourriture américaine.
Ouais.
Avec les metteurs en fond sonore et puis une nouvelle recette, les oignons frits.
Les oignons frits, exactement. Alors, tu connais les oignons frits, Cyril ?
Bah, c'est des oignons qu'on met dans la pâte à beignets et qu'on met dans la friture.
Exactement, c'est exactement ça. Du coup, il va vous falloir... De la farine, forcément, de la levure et du sel qu'on mélange dans un bol, et puis dans un autre bol on mélange de l'œuf et du lait, et puis on trempe là comme ça les rondelles d'oignons dans ce mélange de farine un peu à l'aide d'une fourchette, et puis ensuite on les trempe dans le mélange œuf-lait, et puis ça nous fait une espèce de chapelure en fait, hein, tout simplement, et puis ensuite on va les faire frire 2 à 3 minutes et c'est super bon.
Et ça va gonfler sous l'effet de l'huile, puisque la levure va faire une pâte relativement épaisse, et ça va donner envie, ou vous donner carrément envie de voyager du côté du sud des États-Unis, ou pas que.
Exactement, exactement. Mmh. Et puis c'est surtout une super entrée qui accompagne à merveille un petit whisky, peut-être.
Ah, on y vient. Au liquide. Ou alors, peut-être une bonne bière fraîche, puisqu'il faut le dire, dans le sud des États-Unis, il fait très chaud, avec le bayou, les crocodiles, tout ça, je vous fais pas un dessin. Il y a cette vision un petit peu, on va dire, comment on peut dire ? Ah, d'accord.
Non mais c'est un peu, oui, s'il fait chaud, et puis ils aiment bien quand même manger un peu gras, hein,
oui,
et arroser ça avec
des
un peu de la bière et surtout du whisky, et surtout du bourbon en fait, beaucoup plus que du scotch qu'on retrouve plus en Écosse, et ils refont fumer leur scotch.
Ils font en baril de bourbon.
Exactement. Est-ce que tu peux nous parler un peu peut-être de la musique qu'on entend en fond sonore ? Parce que tu as choisi des musiques quand j'ai choisi ce qu'on allait décliner en termes de nourriture finalement.
Alors j'ai fait un petit peu marcher ma discothèque, ma volumineuse discothèque. Et puis la Nouvelle-Orléans, ça évoque tous ces groupes assez proches du carnaval. C'est des descendants d'esclaves noirs qui ont ingéré pas mal d'influences musicales, notamment les îles Caraïbes qui sont pas très loin. C'est un espèce de chaudron qui hop. Attends, là j'ai les pieds qui sont dans les fils. En fait, c'est une espèce de grande marmite dans laquelle on a mis des percussions, des cuivres, des choses qui sont ensoleillées, on a mis le tout à bouillir à feu.
Avec les oignons.
Avec les oignons, évidemment.
Dans l'huile.
Et puis, ça donnait un petit peu ce son typique de la Nouvelle-Orléans.
Exactement.
Alors, les metteurs, Dr. John qui nous avait quitté, hélas, il y a cela une petite quinzaine de jours.
Ouais.
Et j'aime particulièrement cette musique-là, puisqu'il y a un côté vraiment traditionnel et authentique. Il n'y a pas de... À l'époque, il y avait très peu de moyens, on va dire, de correction sonore. Donc là, c'est du tout bon. Les metteurs, on va écouter la fin du morceau et puis on va enchaîner juste derrière.
Avec les muffins salés. C'est pas mal hein, cette petite, je sais pas, on peut dire un peu funk.
Oui, c'est de la funk, ouais. Ouvertement, même s'il y a ce côté un petit peu bariolé, comme je le disais, avec ces différentes influences qui ont été mises dans la marmite, et puis tout, on a mis ça à mijoter de longues heures.
Et oui, et il y a quelque chose qui ne mijote pas, c'est les muffins, puisque les muffins vont au four. Et oui, et les muffins sont salés au jambon et au fromage. Le muffin, c'est ce petit gâteau plus gros qu'un cupcake individuel qu'on mange en général sucré. Mais là, c'est un muffin au jambon et au fromage. Il faut préchauffer évidemment son four à 80 degrés. Et puis, surtout, avoir des moules à muffins. Il faut battre deux œufs. de la farine, 100 g de farine, 75 g de fromage blanc, 100 g de jambon blanc, 125 g de yaourt nature, 3 cuillères à soupe d'huile de tournesol et une pincée de sel, de poivre. On peut même y mettre un peu d'aneth, c'est excellent.
Ouais.
Et on va mettre toutes ces petits muffins qui vont gonfler en fait sous l'effet du four et de la chaleur à cuire à 180 degrés pendant 20 minutes.
D'accord.
Effectivement. Et ça peut nous faire comme, c'est des petits muffins qu'on mange à l'apéro, qui s'accompagnent excellemment bien d'une salade verte.
Ah.
Très très bon, avec un peu de menthe. La sortie du four et c'est parfait.
Et puis une petite sauce à base de, une sauce blanche. Bah, je sais pas.
Exactement,
du yaourt, des trucs, c'est estival, c'est frais.
Avec des petits concombres.
Oui, évidemment, avec de l'aneth, de l'ail, du yaourt, sel, poivre et puis un petit peu de l'huile de coude pour faire monter le truc. Pour illustrer un peu cette recette, j'ai choisi Steve Young, qui est un petit peu le représentant du country rock version redneck du Sud, un natif de la Géorgie, qui est l'état limitrophe à la Louisiane. Donc voilà, on écoute ça et puis après on réagit. Restez bien à l'écoute de Radio Campus 90.8.
I wake up every morning about to break dawn. Hear the rooster crowing, feel all alone. There's honeysuckle outside my window, dew sparkling on the vine. Little squirrels are barking like they thought they was a mountain lion. I get to thinking about the road and all the times that I come back again. I was born a child of these muddy roads. Thought I'll die here lonesome as the wind. Cause all my cars, they broke down. Just seems so hard. But a man come by here this morning and he wanted to paint my barn. Well, he painted Sea Rock City, that's Highway 31. Hey, I used to have a church woman. She was pretty as she could be. Run off with a gospel singer up in Nashville, Tennessee. So I drank a lot of liquor, honey, now I drank a lot of booze. Hey, I'm a midnight country rambler, you know I ain't got much to lose. Carve my tombstone, honey, don't worry nothing about no name. Just see that he come with the morning wind and left with the mountain rain. Yeah, but he could play a fiddle, Lord, he could make a gold bell ring. He could make a guitar sparkle like the early morning rain. Yeah, the man come by here this morning and he wanted to paint my barn. Well, he painted Sea Rock City.
Et juste avant, c'était Steve Young, The White Trash Song sur Campus Grenoble 90.8. Vous êtes bien, vous êtes toujours dans l'apérophonie.
Et on est bien.
Et on est pas mal.
Ouais.
Ce soir, on vous parle un peu de cuisine et on fait un parallèle entre cuisine et rock.
Oui, rock et puis assimilé, puisque là, il faut le dire, on était carrément en terrain des chapeaux et des Stetson et puis surtout des bottes. Du sud profond. Steve Young, Seven Bridge Road, ça c'est le nom du disque qui était sorti en 72 et qui propose comme ça, au travers d'une série de 12 chansons, des tranches de vie vécu à l'époque, dans les années 70, des histoires de cow-boys, mais pas que.
Et justement, sur la route, qu'est-ce qu'on peut manger sur la route actuelle de nos rues le midi, un truc un peu simple et rapide?
Bah oui, histoire de pas s'en mettre plein les doigts, un petit hot dog.
Un petit hot dog.
Coincé dans,
dans du pain.
Du pain.
Dans du pain hot dog.
Ouais, une saucisse.
Ou dans une baguette chez nous.
Ouais. Avec des oignons frits.
Exactement, hein, dont tu vous as déjà donné la recette plus avant. Il suffit juste pour ce hot dog de faire cuire une saucisse au bain-marie. Et puis de mettre de couper les pains à hot dog en deux dans la longueur, et puis de mettre cette saucisse dans le pain, et finalement c'est super simple c'est super bon.
Pratique.
Et on voulait sortir justement du cliché et ne pas vous proposer la fameuse recette du burger.
Bah oui,
qui n'est pas américain par ailleurs à la base, mais qui vient de Hambourg.
Ah bah ça.
Et oui, et qui est arrivé avec les Allemands qui ont traversé l'océan Atlantique.
D'accord.
Hamburger.
Et puis, tu me disais hors antenne que tu avais un projet aussi d'émission.
Ouais.
À part du pin, sur le vin, on ne va pas dire pinard.
Ouais.
Et puis de fromage.
Et oui, j'aimerais bien arriver à trouver, si quelqu'un m'entend. Alors, je vais arriver à trouver 10 régions en France où on peut parler vin et fromage, mais surtout, je veux arriver à trouver des fonds pour être sponsorisé et pour que ce podcast qui sera mis en ligne gratuitement puisse exister en fait.
Donc c'est quoi? C'est plus un podcast promotionnel? C'est quoi exactement? Qu'est-ce que tu mets derrière?
L'objectif c'est d'arriver par le son à faire déguster du vin et du fromage qui s'accordent, pourquoi ça s'accorde ensemble, et donc d'en discuter avec des professionnels dans différentes régions de France.
Ah, c'est pas mal ça, c'est sous forme de micro-trottoir ou plutôt tu viendrais avec ton matériel et tu te poserais...
Plutôt sous forme de reportage.
D'accord.
En allant vraiment vers les professionnels du vin et du fromage.
Donc, un projet qui va prendre forme à la rentrée.
Alors j'aimerais bien effectivement commencer à tourner les épisodes à la rentrée, mais si j'arrive justement à trouver ces fonds, ce serait un podcast qui sortirait aux alentours de février ou mars 2020.
D'accord, et puis qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver des fonds? Qu'est-ce qu'on peut dire
Je sais pas, envoyer un mail à Campus Grenoble sur l'adresse contact.
En te l'adressant directement?
Et oui, en mettant pour Émilie dans l'objet. Et si jamais vous voulez sponsoriser ce podcast, que vous soyez des gens qui proposent du fromage ou du vin ou pas, peut-être que vous avez juste envie de sponsoriser un podcast sur le vin et le fromage, et envoyez un mail à contact@campusgrenoble.org avec pour l'objet pour Émilie, et je répondrai très rapidement.
D'accord, là on va revenir justement au côté urbain du hot dog, et puis écouter un extrait du premier album de télévision, qui est pour moi un peu l'archétype du rock new-yorkais de la fin des années 70, avec une, on peut dire, une sensibilité punk, mais pas que, très psyché dans les guitares. Sino Evil, nous, on voit pas le diable, au contraire, on se fait plaisir. Et puis, qu'est-ce qui nous attend après, juste derrière?
Et juste derrière, on parlera de la Thanksgiving, même si c'est pas vraiment
de saison,
mais en tout cas c'est aussi américain, donc pourquoi pas.
Bon écoutez, restez bien avec nous même si on avait plein la glotte
sur Campus Grenoble 90.8.
I'm
Et vous êtes toujours sur Campus Grenoble 90.8, c'est l'heure de l'apérophonie. Et ce soir, bien entamé, cette apérophonie, on vous a déjà parlé de pas mal de plats et américains, hein, puisque c'est le thématique d'aujourd'hui, et de musique qui pourrait accompagner ces plats en compagnie de Cyril.
Ouais. À l'instant, télévision, aucun lien, on va dire, direct avec l'outil qui déverse toutes ces saloperies dans l'esprit humain. Télévision, c'était le groupe de Tom Verlaine et puis de Richard Lloyd qui tricotaient avec leur guitare des mélodies qui donnent envie de danser. Enfin, je sais pas. Hein. C'est suivant votre inspiration, votre sensibilité. Nous en étions donc après le hot dog, sans aucune transition, à parler de dinde.
Bah oui. Pourquoi la dinde? Parce que du coup, on avait choisi de parler de trois entrées, deux plats et quelques desserts, suivant le temps qui nous était imparti. Et l'enjeu, c'était de vous parler d'autre chose que du burger. Et donc, j'ai proposé la dinde de Thanksgiving, même si c'est encore dans quelques temps, hein, dans quelques mois.
On a de la marge.
Effectivement, le soleil aura déjà commencé à décliner, l'été ne sera plus là, on sera même bientôt à la fin de l'automne, mais n'y pensons pas. Laissons-nous juste imbiber finalement par cette dinde. D'ailleurs, dans les recettes que j'ai trouvées, on parle de stuffing. Est-ce que tu sais ce que c'est le stuffing?
Stuff, c'est quoi? C'est fourré, non?
Exactement. En fait, le stuffing, ça va être le composé avec quoi qui va fourrer la dinde. Et il est différent dans chaque état. On peut y retrouver, par exemple, des huîtres. On peut y retrouver des cranberries, des amandes, du riz. Avec des recettes avec ou sans pain, et chaque état va avoir son
sa spécialité, voilà,
effectivement, voilà, traditionnel. Donc là, on vous propose de prendre une dinde de 4,5 kilos. Je sais pas combien on nourrit de personnes avec 4,5 kilos, mais à mon avis, ça doit
c'est
envoyer
énorme,
un peu.
C'est énorme.
C'est Thanksgiving.
Globalement, faut compter. On va faire
300
un petit
grammes.
Et encore 300 grammes, c'est énorme. C'est le soir.
200 grammes.
Après, on va se coucher, ça c'est, on va dire, c'est assez rédhibitoire, mais 250 grammes par personne. Tu fais le rapport, là, il y a bien une bonne tablette 25-26, donc c'est familial. Hein.
Ouais.
Et sachant que dans la dinde, il y a des parties un peu plus sèches que l'autre,
ouais.
Donc ça donne soif, forcément. Et puis, avec quoi donc on pourrait la farcir, je préfère.
La farcir. Avec de la noix, par exemple, avec du pain dur, avec de l'oignon, avec des carottes, une pomme peut-être, une branche de céleri, 85 grammes de beurre, par exemple.
85 grammes, autant mettre la tablette entière.
Allez, allons-y. Un peu d'olive, du bouillon de volaille, voilà. Et puis, on fait revenir tout ça ensemble après avoir fait griller les noisettes. Mmh. Et on a un stuffing dans lequel on peut rajouter du persil, du poivre. Et du sel.
Un petit peu de fraîcheur.
Exactement. On va donc prendre cette dinde, dont je vous conseille de faire enlever les abats directement chez le boucher,
oui,
parce que c'est un peu pénible sinon. On la frotte dans le sel, après l'avoir lavé la veille. On place du coup cette dinde dans un gros plat. On va la placer au frais pendant 12 heures. Et puis le lendemain, du coup, on retire cette dinde du plat et puis on la relave. Pour enlever les excédents de tout ce qui aurait fait sortir le sel pendant la nuit. On préchauffe forcément son four à 175. On dépose délicatement la dinde dans un plat qui va au four. Il faut qu'on voit son dos, hein, poitrine vers le bas forcément. Et puis on farcit cette dinde avec le stuffing qu'on a préparé avec des noisettes, des petites carottes, des pommes comme on vous l'a dit tout à l'heure. On met du thym et du romarin dans le plat. On fait fondre le beurre et on badigeonne toute la surface de la dinde. On pourra recommencer à badigeonner cette dinde pour qu'elle ne perde jamais son gras un peu sur la peau. Sinon, ça fait de la peau plus croustillante. Mais là, c'est vraiment l'idée de que ce soit une dinde
qui soit bien dorée. Quoi,
qui soit bien dorée, exactement. Et puis, on peut rajouter du vin au fond du plat. On répartit des légumes, donc des tomates, des carottes. Des petits ronds, un petit rond coupé en des branches de céleri, du maïs égoutté, des branches de thym, tout ça, du laurier autour du plat. Et puis on va faire cuire cette dinde donc à 175. Donc ça va prendre un peu de temps quand même. Hein,
suivant le volume de la bête. Ouais.
Exactement. Ça va prendre quelques heures même. Et une fois que, quand vous retournez votre dinde, il ne coule plus aucun sang, en fait, elle va
elle
être cuite.
Ah ouais.
Exactement.
Moi, j'ai une autre technique.
Ah.
Vous insérez un couteau entre l'aile ou la cuisse et l'omoplate.
Oui.
Et vous regardez si la viande est encore rosée. Si elle est plus rosée, c'est qu'elle est cuite aussi.
D'accord.
C'est valable pour le poulet aussi. Et puis bah là, comme on est quand même dans un registre vraiment très très nourrissant et très lourd, si j'ose dire, je vous propose une petite mélodie californienne histoire d'alléger un peu le propos parce que
oui.
là,
Après,
je sais pas pour toi, mais toi t'es assis, moi je suis debout, j'en peux plus là.
On en peut plus.
Alors ce qui vous attend là, c'est Buckingham et Nix, le couple qui était à l'origine de la reconversion d'un groupe anglais Fleetwood Mac du côté de Los Angeles en Californie. À l'époque, nous étions en 73.
Ils sont beaux.
Ils sont beaux.
Ils sont beaux.
Ils sont jeunes, ils sont beaux.
Mm-hmm.
Et puis, par contre, le contenu de l'album est légèrement plus, on va dire, moins enthousiasmant. C'est une histoire c'est une vie de couple en fait, puisqu'ils sont en couple dans le civil et puis ils se déchirent. Crying in the night, sans aucune transition avec la dinde, mais c'est
familial
si tu veux. Mais la mélodie est bien plus légère que le texte, on va le dire, faut le
oui.
dire. Buckingham et Nix,
c'est sur Campus Grenoble tout de suite, 90.8. Vous êtes toujours sur Campus Grenoble 90.8, c'est l'heure de l'apérophonie. Ce soir, on vous parle cuisine américaine et rock américain. D'ailleurs, notre dinde est toujours au four.
Elle est toujours au four et puis elle dort tranquillement.
Avec régulièrement, vous lui remettez du beurre.
Bah, on arrose.
Sur la peau avec un peu d'eau.
Oui, pour pas qu'elle dessèche.
Exactement.
Et puis, bah, pour rester un petit peu dans la continuité de l'idée, la dinde, ça vole peut-être pas trop très haut. Mais comme c'est une cuisson qui est longue, on vous propose d'écouter un autre morceau de musique, histoire de faire bah, de joindre l'utile à l'agréable.
Exactement.
Avec Thomas Jefferson Kay. Ouais. Et puis son titre, Learning How to Fly.
Même si on n'est pas très sûr que la dinde ait déjà une fois essayé de voler, mais c'est pas grave.
Non, on s'en fout, l'imaginer. Ça. On va l'avoir dans l'estomac.
Exactement.
Et puis, bah, voilà.
On se retrouve juste après.
Juste après, dans l'apérophonie.
Sur Campus Grenoble.
90.8.
Vous êtes toujours sur Campus Grenoble 90.8.
Et puis c'est toujours l'apérophonie avec Émilie.
Et Cyril.
Comme ça, on vous accompagne gentiment jusqu'à 19h avec cette histoire de dinde qui finalement a fini par cuire parce que là, ça va bientôt faire 2 heures qu'on l'attend.
Oui, même 3 je crois, hein, parce que 4,5 kg, ça cuit pas comme ça quand même.
C'est ça, et puis histoire vraiment de vous achever, chers auditeurs, on a prévu de vous parler de cornbread juste derrière.
Et ouais, et alors qu'est-ce que le cornbread ?
Un pain de maïs.
Exactement.
Un truc qui tombe dans le fond de l'estomac et qui fait plouf.
Exactement. Et alors, moi, j'ai jamais essayé, en fait, le cornbread. C'était un peu le bonus de cette émission pour vous faire découvrir autre chose que le pain blanc. En fait, c'est un pain avec 140 grammes de farine de maïs. Donc, en fait, il y a aussi du beurre. Il y a quand même 100 grammes de beurre. Fouetté avec l'équivalent de 2 œufs et aussi du sucre, 110 grammes de sucre, rien que ça.
Ouais.
Du lait fermenté, hein, voilà. Donc on mélange tout ça, le beurre, le sucre, les œufs et le lait fermenté. Et puis à côté, dans un autre saladier, on mélange la farine de maïs, les 140 grammes, la farine de blé, 140 grammes, et le sel, et la levure, le bicarbonate. Donc le lait fermenté, effectivement, c'est soit du lait fermenté du lait Ribo ou 235 ml de babeurre.
D'accord.
Tu peux peut-être nous expliquer ce que c'est le babeurre ?
Je crois que c'est un résidu qui doit être contenu dans le lait, comme comment
c'est
on pourrait dire
lait,
ça.
C'est
du petit lait, bah, je dois être ça.
Ouais, moi c'est ce que j'appelle.
Truc assez vraiment très âpre en bouche, et puis c'est quand vous faites clarifier un peu de beurre, c'est le résidu.
Quoi. Ouais, il me semble que c'est ce qui sert à faire les séracs en France.
Ah, peut-être.
C'est vraiment
là,
ce résidu du petit lait. Bon, peut-être. On vérifiera ça et on vous le dira dans la prochaine
séance. Ça donne un petit peu d'aigreur, on va dire.
Et puis donc on incorpore les farines. On ajoute avec...
on fait le truc copieusement, histoire d'en mettre de partout.
Ouais. Exactement, il faut qu'il y en ait beaucoup sur le plan de travail.
Voilà.
Et puis, dans un petit moule carré, on verse tout ce truc qu'on a...
Dans un petit moule carré, ouais. Si t'arrives encore à...
Exactement,
à
dans un gros moule carré, avec les 100 grammes de beurre. Et puis, on enfourne tout simplement entre 40 et 50 minutes au four, à 180 degrés. Ça se déguste chaud et tiède, donc... Là, c'est la dernière période de la dinde, de la cuisson de la dinde, et vous allez manger ça avec votre petite dinde, le cornbread.
Petite dinde, ça fait 3 quarts
grosse
d'heure
dinde.
Voilà, de 4,5 kg.
Oui, juste 4,5 kg, ça va.
Eh bah, bien, écoutez, je vous souhaite un bon voyage.
Oui.
On va retourner avec Steve Young et puis écouter
oui.
My Oklahoma, qui est un état du centre des États-Unis,
oui.
À cheval entre le nord et le sud.
Là, on trouve les champs de maïs.
Et puis surtout, les rednecks pur jus, ceux qui arrivent à cheval et puis... qui font
qui dégustent du cornbread.
Voilà,
yeah.
C'est ça.
This is my horse.
Yes, My Oklahoma de Steve Young. Bah restez bien, il reste encore un quart d'heure
avec nous,
histoire de découvrir les petits plaisirs sucrés après cette gargantuesque dinde.
Sur Campus Grenoble 90.8 et ne bougez pas, on vous parlera Clint Eastwood et Meryl Streep. À tout de suite.
Out in the morning, and the steel rustle of corn what a
après ces petites minutes, on va dire, de romantisme sirupeux, avec ces riffs de pedal steel qui font que la dinde finit par arriver dans le fond de votre estomac.
Si vous avez de la chance, on fait très bien la transition entre Meryl Streep et la dinde, ou la dinde et Meryl Streep. Avec la classe qu'elle a, personne n'y croira.
Et puis comme on est sur Radio Campus, un décollage
contrôlé.
Décalage ou décollage?
Décollage contrôlé, mais pas de décollage parce que la dinde ne vole pas,
je crois.
Hein,
il faut le dire. Donc là, on va entamer l'épisode sucré.
Bah oui, moi j'avais très envie de vous parler de l'apple pie. C'est cette tarte à la pomme,
effectivement.
Apple pie.
Yes.
Avec ces lignes qui s'entrecroisent sur le dessus de la tarte, je trouve ça trop beau. Donc en fait, c'est tout simplement la superposition de deux pâtes brisées. Alors vous nous faites plaisir, vous arrêtez d'acheter des pâtes brisées à l'huile de palme dégueulasse pour lesquelles on tue des orang-outans à l'autre bout de la planète. Vous achetez 250 g de farine de blé, 125 g de beurre. Vous mélangez le beurre et la farine du bout des doigts. Donc le beurre, vous le coupez déjà en petits carrés. Et puis avec une pincée de sel que vous aurez déjà mélangé aux 250 g de farine et 5 centilitres d'eau, ça fait une pâte feuilletée. Vous refaites la même chose, ça fait deux pâtes feuilletées.
Pâte brisée, parce que la pâte feuilletée, c'est une pâte succession
brisée.
De quiches.
Pardon.
De couches, pardon.
Oui,
quiches.
Effectivement, avec beaucoup de beurre. Alors excusez-moi, la pâte brisée. Pardon.
Et puis juste un petit pense-bête comme ça, n'hésitez pas à sortir votre tablette de bord pour la faire ramollir.
Oui.
Ça facilitera vos allées et venues avec les doigts. C'est vachement agréable finalement de faire de la pâte comme ça avec les doigts, du bout des doigts.
Oui, et c'est encore mieux quand on est deux parce que l'autre peut rajouter la farine et pour éviter que ça recolle parce qu'on peut pas mettre ses doigts dans la farine et comme ça on peut faire vraiment du bout des doigts.
Oui, c'est ça. Et puis bah l'avantage d'être à deux, c'est que
on peut manger sa tarte à deux après.
Ouais, ou alors en mettre de partout, c'est selon, hein, si ça dégénère.
Excellent. Alors, vous avez vos deux pâtes brisées. Je répète, vos deux pâtes brisées maison, comme il se doit.
Oui.
Vous mettez votre premier pâton de pâte brisée
ouais.
Dans votre moule
ça
à tarte.
De
oui. Et puis vous l'étalez pour que les bords dépassent un peu. Vous coupez tout ce qui dépasse en haut avec un couteau.
Ouais.
Je sais pas, je crois que c'est un nom.
Bah c'est en fait tu fais ce qu'on appelle une abaisse, c'est-à-dire tu étales ta pâte brisée.
Brisée.
Ou sablée ou je sais pas. Hein, y a
une pâte.
Voilà une pâte. Donc vous faites ça sur votre plan de travail. Après avec le rouleau, vous l'enroulez sur le rouleau à pâtisserie et vous la disposez sur votre moule. Et après ce qu'on appelle, c'est faire une abaisse. Et après une fois, bah tu passes ton rouleau et ça, avec l'action du rouleau sur les bords du moule, bah vous éliminez le surplus.
Voilà et vous avez une pâte bien lisse sur le dessus. Donc la pâte dans le moule au four, donc le moule pardon au frigo. Que vous laissez reposer une petite heure et vous mettez surtout à préchauffer votre four à 220 degrés. On pèle les pommes, on les coupe en tranches fines et dans le saladier, on le mélange avec de la farine, du sucre en poudre, de la cannelle, de la noix de muscade que vous pouvez acheter et râper vous-même la noix de muscade, le citron et la pincée de sel. Ensuite, donc on mélange toujours avec les mains. L'apple pie, c'est ça, c'est on mélange avec les mains. Et puis vous versez le mélange dans le plat à tarte préalablement refroidi du coup au frigo. Vous coupez le beurre en petits morceaux et vous placez ce beurre sur le mélange, 15 g de beurre, pas plus. Et puis vous recouvrez votre plat à tarte avec la seconde pâte brisée. Ou alors vous pouvez, moi ce que j'adore faire, c'est donc étaler la pâte, la couper en fines lanières et puis ensuite faire que ces lanières s'entrecroisent en carré,
quadrillage.
En quadrillage. Et c'est vraiment magnifique, je trouve. C'est pour ça que j'adore l'apple pie, je crois, d'autant plus que le goût. C'est
voilà.
Que c'est ce quadrillage magnifique qui recouvre cette tarte et qui la donne d'autant plus alléchante, qui nous donne envie de la croquer.
Alors la fabrication est ludique. Et puis la dégustation est aussi ludique.
Oui, mais alors avant de la déguster,
ah.
Il faut surtout sceller les deux pâtes sur les bords.
Mmh.
Donc vraiment avoir comme, enfin fermé sur les bords.
Bah, comme une tourte.
Exactement, comme une tourte. On badigeonne de jaune d'œuf pour que ça dore, forcément. Et puis on met un peu de sucre brun. Alors dans vos pommes, vous pouvez même rajouter de la cannelle aussi à l'intérieur. Hein, ça, je ne l'ai pas dit, mais vous pouvez le faire. Moi, j'adore la cannelle.
Ah, c'est vachement bon, ouais.
mettre de la cannelle dans votre, avec vos pommes, c'est le mélange parfait. Et puis ensuite, vous enfournez votre tarte à, du coup, on avait dit 220 degrés pendant 25 minutes. Et ensuite, on baisse le four à 190 degrés et on laisse cuire encore pendant une heure jusqu'à ce que la pâte soit dure sur le dessus et que la sauce, elle fasse des bulles. En fait, ça fait une compote au four.
C'est ça, avec une couche de pâte.
Exactement.
Et puis, bah, histoire de nous sortir un peu de notre torpeur liée à la dinde.
Et à la boule de glace vanille qui accompagnera cette magnifique apple pie.
On va écouter quelque chose d'un peu plus, on va dire, revigorant, Monsieur Dr. Jones, avec enregistrement qui date de 59, c'est-à-dire les débuts de sa carrière.
Et oui.
Pourquoi j'ai choisi Dr. John justement pour un double emploi? Parce qu'il personnifie un petit peu cette image que j'ai un petit peu fantasmée de la Nouvelle-Orléans. Et surtout qu'il vient de nous quitter, quoi, à 72 ans, 73 ans. Hein, comme quoi les rockers ne sont pas immortels. Et le titre, quant à lui, s'appelle Storm Warning. Attention, il y a la tempête qui arrive. Il faut se réveiller. Vous êtes toujours sur Campus Grenoble
90.8. Et attendez-nous, on revient juste après ça. Toujours sur Campus Grenoble 90.8, c'était Dr. John. Et avant qu'on écoute l'avant-dernière musique d'avant Dr. John, donc, je vous parlais de Meryl Streep avec les riffs de guitare de Steve Young. Et justement, on a fait descendre la dinde. Avec Dr. John, on était dans les États-Unis des années 60, avec ce film magnifique dans lequel une ménagère qui aurait très bien pu faire une apple pie, telle qu'on vous l'a proposée dans cette recette de cuisine, se laisse envoûter alors que ses enfants et son mari sont partis, se laisse envoûter par le photographe qui n'est autre incarné par Clint Eastwood. Voilà, et pour moi, l'apple pie, c'est ça, c'est Meryl Streep dans Sur la route de Madison.
Avec Clint Eastwood.
Ah ouais.
Et
c'est déjà la fin.
Bah ouais,
malheureusement,
ça passe vite.
Ça passe beaucoup trop vite.
Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, justement? Bah, peut-être qu'il y aura d'autres occasions de faire des programmes comme ça dédiés à l'histoire du rock et puis au...
Croisé cuisine,
parce que ça donne lieu quand même des réflexions un petit peu rigolotes. Non,
exactement.
Carrément rigolotes. Et puis ça voilà.
On était content de le faire, c'était chouette.
D'investir le studio et puis de causer des blatères dans les micros.
Exactement.
L'estomac plein, ça c'est vachement important.
Eh oui, puisqu'on a mangé avant. Pas américain, mais on a mangé quand même.
On a mangé un petit peu léger.
Oui.
Vous valez bien, parce qu'après la dinde...
Avant la dinde, je ne sais plus.
Le traumatisme de la dinde.
Oui. Avant de nous retrouver peut-être bientôt, on vous propose une série Netflix. En fait, c'est deux séries qui ont le même titre mais qui déclinent pas les choses de la même manière. C'est Chief's Table France et Chief's Table mondial. Vous y découvrez de grands chefs français pour Chief's Table France et de tous horizons. On va cuire de la viande en Patagonie, on va en Suède, c'est magnifique vraiment. Si vous aimez saliver devant de la bouffe, alors...
Il y a des belles images.
Allez-y, il y a des images magnifiques de Patagonie où ils enterrent de la viande et des pommes de terre qu'ils font cuire pendant des heures et c'est incroyable.
À ciel ouvert ou ils font ça dans les cuisines ou ils font ça en plein air?
Ils font ça en plein air et
ils
recouvrent toute la bouffe, quoi, en fait, toute la viande, toutes les pommes de terre pour des fêtes énormes, des viandes de bœuf incroyables ou de mouton, je crois que c'est du mouton. Et c'est vraiment fou, on voit des images de paysages, que ce soit en Suède, en Patagonie ou dans le monde entier, quoi, avec des chefs reconnus qui apprennent un peu, qui nous en disent plus sur leur manière de voir la cuisine. Et c'est hyper intéressant.
Ouais. Puis là, pour se quitter, on parlait de Meryl Streep qui n'a rien à voir avec la fille basique.
Non.
On va écouter un titre, histoire de finir en beauté le repas, parce qu'il a été bien fructueux et chargé, puisqu'on a quand même mis une heure à la déguster, cette dinde. On va écouter Basic Lady de Aline Toussaint, un producteur de Nouvelle-Orléans qui est mort lui aussi. Et comme quoi le rock n'est pas éternel, enfin plutôt les rockers.
Ils ne sont pas éternels.
Et puis le tout concocté avec les Meters, Basic Lady, une histoire de bijoux et de filles. Un petit peu, on va dire, blonde.
Non, c'est pas ça, c'est pas blonde, c'est peut-être plus tourné sur des trucs superficiels.
Voilà.
Mais rien à voir avec être blonde ou brune, c'est plus effectivement un peu superficiel et tourné sur l'argent et les bijoux. Ce que n'est pas Meryl Streep dans ce fabuleux film qu'on vous conseille de regarder sur la route de Madison. On vous laisse avec cette musique, on était ravis d'être avec vous pendant cette heure. Et puis on se retrouvera rapidement. Pour
autour
Cyril,
d'une, pour moi-même, le mercredi,
et oui,
de
21h
à 22h dans Rockologie, coincé entre Bertrand et puis Stéphane. Je les salue au passage, mes deux comparses de radio. Et puis toi-même, dans différents programmes.
Et oui, pas encore, mais peut-être à la rentrée, effectivement.
Il y a plein de projets qui te...
Qui me tiennent à cœur autour de la radio.
Merci,
à
puis bah, bientôt.
Sur Campus Grenoble.
90.8.
In my